Salut tout le monde, c'est Radio Jardin, une demi-heure d'air libre pour s'évader du monde moderne et prendre le maquis potager. Et le maquis potager en question est un jardin de ronces, un potager sauvage aux parcelles éparpillées sur une grande friche maraîchère de la ville de Nantes, une friche qui est destinée à se voir bétonnée pour faire pousser des immeubles. Un espace que vous avez déjà découvert dans Radio Jardin, un potager dont on va maintenant admirer les derniers feux automnaux, toujours en la compagnie de Marie et de Julien que vous avez rencontrés la dernière fois.
Ici, c'est une zone en partie cultivée, en partie, on a laissé un petit peu, plus ou moins volontairement, la nature reprendre ses droits. Donc là, on va revoir un petit peu les espaces, mais donc on a des poireaux, des cardons. Là, c'est des parcelles qu'on a commencé à remettre en engrais vert pour l'hiver, donc c'est du trèfle incarnat qui va pousser. Là, des zones qui étaient en engrais vert qu'on n'a pas recultivées, donc qui sont un petit peu délaissées. Là. Et puis derrière, le long du mur, il y a des petites parcelles qui avaient été mises pour des initiatives un peu individuelles. Parce qu'aussi, on n'a pas dit, mais derrière les ronces, là-bas aussi, il y a des gens qui sont installés, des petits groupes de gens. Alors, ils ne font pas partie du jardin collectif, mais on est en lien, ils utilisent la cabane et ces petites parcelles, pas vraiment individuelles, ils sont 2-3, quoi. Mais, parce qu'il y a beaucoup d'espace, donc c'est bien. C'est une zone qui est accessible à tout le monde, donc il faut que l'occupation s'agrandisse. Mais et donc s'il y a des gens qui veulent venir ici, rejoindre le mouvement, soit jardiner avec nous ou s'installer plus loin, il y a tout ce qu'il faut, faut pas hésiter. Sur le fond là-bas, il y avait des zones de patates, paille et foin, il y a beaucoup de foin ici du coup avec toutes les herbes. Donc on avait planté des patates sous le foin, on n'avait plus trop de temps pour préparer tout ça. Donc on a fait des tests, ça n'a pas été extraordinaire, mais voilà. Donc c'est des zones qui seraient un peu à remettre en culture et on va faire ça bientôt. Là on a une réunion dimanche et on va réfléchir à quel espace on veut cultiver par la suite. Et puis du coup ces espaces-là, les désherber un peu et puis mettre de l'engrais vert pour l'hiver. Ouais. Donc il y a tout ce qu'on essaie de prévoir en collectif, puis il y a des fois sur les chantiers, des gens qui ramènent des trucs, qui ont des envies, donc ils mettent, et puis après, soit eux, soit d'autres qui passent s'en occupent, mais voilà.
Donc du coup, là, c'était votre deuxième été, finalement, ici, en tant que jardin des ronces. Justement, Marie, comment est-ce que tu es rentrée en contact avec cet endroit ?
Eh bien, il y a 2 ans, j'habitais dans le quartier, hein, pas très loin, et moi, je suis très nature et sport, vélo, rando. Et j'allais vers la Loire, je passais dans les friches et à ce moment-là, il n'y avait rien d'aménagé. Aujourd'hui, il y a la piste cyclable le long du ruisseau du Goar. Mais à ce moment-là, moi, je passais dans les ronces et je trouvais ça très bien. Moi, je pense que le sauvage, c'est très important. Et comme disait Julien et d'autres jeunes, là, ça leur rappelle un peu leur enfance ou leur jeunesse, où on va dans les arbres faire des cabanes, où on aime bien être loin des parents un petit peu. Et ça, les jeunes d'aujourd'hui, les enfants, ils n'ont plus ce luxe de pouvoir s'amuser loin des adultes.
Il y a de moins en moins d'espace pour jouer aux cow-boys et aux indiens. Et là, on arrive à votre puits.
C'est un ancien puits maraîcher, hein, donc alors là on voit juste la petite ouverture, mais en dessous il y a 5-6 mètres de diamètre quand même. C'est aussi ce qui a fait que le jardin est devenu un nouveau jardin, parce qu'au départ sans eau on se disait bon ça va pas être simple, et en fait on a appris par un voisin là qu'il y avait un puits avant ici, on a retrouvé un peu des anciens plans, on a essayé de voir, et donc effectivement sous les ronces, que là on est sur une zone qui était en ronces là. Donc on a fait des chantiers de la chasse au puits, et à un moment sous les ronces on l'a trouvé, ça n'a pas été simple. Et donc voilà, on l'a remis un peu en service, on l'a sécurisé un peu avec des palettes, on a mis une corde, une poulie, un seau, et puis donc on l'utilise comme ça, c'est pas toujours simple, ça prend du temps, donc l'arrosage est pas toujours fait comme il faudrait, surtout l'été où on est pas toujours présent, un peu à droite à gauche aussi, mais c'est bien pratique. Et c'est ce qui fait, je pense aussi, qu'on a quand même eu des belles tomates cette année.
Le coup de bol d'avoir un puits, et alors vraiment à l'ancienne, hein, la poulie avec le seau, on plonge le seau, bon il y a des bidons. Hein.
Donc là l'eau elle était pompée ici par les maraîchers.
Bon, finalement elle est pas loin sous nos pieds l'eau là, elle est quoi, à 5
là,
mètres
là encore, ouais elle doit être à 5 mètres parfois, donc du coup l'hiver elle est un peu moins, l'été un peu plus bas, mais ouais c'est ça à 5 mètres, ouais. Et puis c'est un peu de travail quoi. Voilà, on a un vieux seau, oh là là, combien de fois on a changé chargés de seaux, de poulies, de cordes. C'est bon. Après, on a essayé de trouver des systèmes un peu alternatifs, un peu plus efficaces, sans avoir à prendre de moteur, mais pour l'instant, on n'a pas mis ça en place. Mais voilà, on plonge le seau. Hop, quand il est rempli, on tire. Et on essaie de pas se prendre les petites barres de fer qui bloquent le seau dans le puits. Voilà, voilà, 10 litres d'eau, bien fraîche.
Elle est belle cette eau, non?
Ah ouais, elle est belle, ouais. Puis après, on la met dans des bidons qu'on a récupérés. Puis voilà, il n'y a plus qu'à arroser. Et après, donc ouais, c'était pompé là avec le moteur et ça remontait en haut du château d'eau là-bas. Après,
ça, c'était dans le temps, vous, voilà, vous êtes à l'huile de coude. Hein,
ouais, voilà, bah après, ils avaient plus besoin d'eau aussi que nous. Ouais. Et puis après, sur la redescente, hein, l'intérêt c'était qu'avec les tuyaux, la pression quoi. Ça mettait de la pression du fait qu'il y avait cette descente là, puisqu'il est quand même à, je sais pas moi, 15-20 mètres là, le château d'eau. Donc la descente dans les tuyaux, ça mettait de la pression et ça allait arroser les cultures. Ouais.
Et là, on a de la chance, c'est très très beau, très fleuri. Les œillets d'Inde de toutes les couleurs. Oui, bien sûr, les cosmos.
Voilà, ça commence un peu à défleurir, mais il y en a encore, ouais.
Des beaux coloris, là. Je veux dire, on a une belle palette de jaune, d'orange, de rouge.
Bah ouais, ça, c'est une zone qui est nouvelle, qu'on a défrichée au printemps. C'est la zone de ronces, en fait, qu'on a défrichée. Le reste, on les a laissées. C'était aussi dans l'idée d'être assez proche du puits pour mettre les cultures qui ont besoin d'eau, parce que c'est vrai que sinon, les allers-retours, c'est un peu compliqué. Et puis, c'est vrai que sous les ronces, c'est quand même une terre qui est très riche. Ça fait longtemps qu'il y a des ronces qui sont décomposées. Elle est très fertile. Donc là, on a, je sais pas, peut-être 200-300 pieds de tomates là devant nous et ça a fait une récolte extraordinaire cet été quoi. C'était vraiment une très bonne année à tomates, donc là ça y est, c'est la fin, être malade, il y a eu un peu de pluie et puis on est quand même mi-octobre, mais ouais, une super super récolte de tomates.
Vous allez manger de la confiture et de la compote de rhubarbe aussi.
Et de rhubarbe, belle réussite, ouais, parce que c'est parti de 2-3 plants qu'on a divisé en 22 je crois, très tard dans la saison, genre en mai, fin mai. Et ils sont tous repartis et on en mange pas mal. Donc c'est que cet endroit-là, il est vraiment fertile. Voilà, derrière, c'est un chemin qui mène à des petites parcelles qui sont un peu en dehors du jardin collectif, mais qui ont en lien des gens qui sont installés. Une zone de friche où il y a aussi quelques... On a planté des arbres fruitiers l'année dernière. Quelqu'un qui aime bien passer du temps à faire des greffes, des plants d'arbres. Et puis il avait pas mal de pêchers. Donc là, il y a une quinzaine de pêchers à droite à gauche. Penser sur l'avenir, quoi.
Mais j'ai vu des pommes dans la cabane, là. Donc c'est qu'il y avait déjà des pommiers ici quand vous êtes arrivés. Non, c'est toi, Marie, qui les apportais?
Non, c'est un petit peu aussi la manière de partager. Moi, j'ai des pommes dans un verger de famille. Et donc, voilà, j'en ai rapporté, comme j'en ai beaucoup. C'est une année aussi à pommes.
En plus des activités que tu nous disais tout à l'heure, sport et compagnie, etc., tu jardines déjà?
Oui, j'ai d'autres jardins collectifs.
D'autres au pluriel?
Oui, j'en ai deux, oui.
Donc c'est vraiment pour le plaisir de rencontrer des gens, d'être là, de participer au projet?
Oui, partager du lien. Ça me fait penser à mon enfance, parce que je suis d'origine paysanne. Je suis venue ici pour le plaisir ramasser des patates, comme on disait autrefois. Je me disais, si mon père me voyait faire ça un dimanche pour le loisir, alors que quand j'étais gamine et jeune fille, je pestais contre ces journées entières à ramasser les patates. Voilà, c'est pour l'anecdote.
On est pas mal un jardin du dimanche quand même. On est sur des passages assez ponctuels, hein. Il n'y a pas du monde tous les jours. Le dimanche, c'est en général un jour où il y a plus de monde. Et après, la semaine, bah, ça dépend des jours. Parfois, on est seul, mais c'est bien aussi de travailler seul dans un cadre comme celui-ci.
C'est beau, ce truc-là, là. C'est quoi? Ça fait une espèce de petite hampe fleurie rouge tout au bout.
C'est du trèfle incarnat, donc c'est ça qu'on va mettre en engrais vert. Alors celui-ci, il a repoussé tout seul. Les tomates, là on ne voit plus beaucoup, parce que c'est la fin de saison, mais elles étaient paillées, avec de la paille d'engrais vert d'un maraîcher bio qui s'est installé au milieu des maraîchers industriels, là, vers la chapelle Basse-Mer, et lui, il s'est imposé un petit maraîcher au milieu, c'est bien. On lui avait acheté de la paille pour pailler toutes nos tomates, là, et dedans, il y avait des graines, vu que c'était de la paille d'engrais vert, il y avait des graines d'engrais vert qui repoussent, donc c'est très bien.
C'est beau, c'est hyper beau.
C'est beau, et puis c'est utile, quoi, donc le trèfle, il est autonome en azote, il en redonnera au sol quand il va se décomposer, ça permet de pas avoir une terre à nu l'hiver, ça c'est assez essentiel, sinon avec l'érosion, les nutriments, ils se lessivent, tout ça, c'est pas très bon pour le sol, donc avoir une terre toujours couverte, c'est important, quoi. Tout à l'heure, Marie parlait de permaculture, on ne revendique pas ça, mais on s'inspire de techniques alternatives où on essaie d'utiliser un maximum ce qu'il y a autour aussi, ici, et puis de protéger la terre et lui donner une vie, une fertilisation assez naturelle, quoi. Donc sans avoir à mettre d'intrants, même s'ils sont bio.
Alors tu disais, vous avez acheté de la paille, quand vous avez quand même besoin d'effectuer un achat, Vous faites une petite cagnotte avec les gens qui sont là?
Ouais, c'est arrivé une ou deux fois depuis le début du jardin qu'on a fait un petit appel entre nous à mettre un peu de sous dans la caisse, pas grand chose, hein, honnêtement, quelques euros chacun. Et en fait, sinon, bah, à l'occasion des fêtes de jardin, où il y avait beaucoup, beaucoup de monde, on avait préparé un repas collectif, partagé, un petit bar, donc à prix libre. Et en fait, il y a eu un super succès, quoi, et on a récupéré largement de quoi satisfaire nos besoins en graines, en matériel, si besoin. Donc voilà, donc non, l'aspect financier, il n'est pas trop compliqué à gérer. Grâce aussi au soutien des gens qui sont venus là, quoi.
Il y a des choux qui sont en train de vaillamment monter vers les cieux. C'est des haricots que j'aperçois là-bas.
Ouais, là-bas, c'est des haricots. Ouais, là, des choux qui, de ce côté-là, donc, sont plutôt vaillants. Et les derniers qui ont été plantés, ils sont moins vaillants parce que, bon, il semblerait qu'il y ait quand même pas mal de lapins ici. Donc, l'année dernière, ils avaient tout mangé. Et là, cette année, ceux qui sont vaillants, maintenant, ils sont suffisamment vaillants pour plus être mangés. Mais les petits, là, ouais, ils sont un peu attaqués. Mais bon, tant pis, ils prennent leur part, on va pas tout grillager, mais ni mettre de piège. Mais voilà, ça fait partie un peu de la vie du lieu. Puis après, des haricots. Ouais, pas mal de haricots. En fait, c'est des haricots du Mexique. Quelqu'un qui a été passé quelque temps au Mexique, là, et qui a ramené des graines de la région du Chiapas. Une région qui se défend aussi, qui défend ses terres.
Spéciale dédicace au sous-commandant Marcos depuis les choux vaillants.
Et donc, il y a eu pas mal de graines de ramener. Après, le feuillage a bien poussé, mais les haricots, c'est pas exceptionnel. Ça a peut-être mis tard, mais là, en tout cas, ils sont beaux, hein, ils sont violets. Enfin, il y en a des violets, il y en a des oranges, des marrons. Voilà, donc pas mal de haricots différents, ouais.
Hermanos y hermanas de otras razas y otras lenguas, de otro color y mismo corazón, aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Sin palabra no existimos, ya basta, vive la palabra, vive el ya basta. Sin palabra no existimos, ya basta, vive la palabra, vive el ya basta. Nuestra lucha es por la historia, y el mal gobierno propone olvido. Nuestra lucha es por la tierra, y el mal gobierno ofrece cementerios. Nuestra lucha es por la vida, y el mal gobierno oferta muerte como futuro. Sin palabra no existimos, ya basta, vive la palabra, vive el ya basta. Sin palabra no existimos, ya basta, vive la palabra, vive el ya basta. Quieren quitar la tierra para que ya no tenga suelo nuestro paso. Nos quieren quitar la historia para que en el olvido se muera nuestra palabra. No nos quieren indios. Muertos nos quieren. No nos quieren indios. Muertos nos quieren. Sin palabra no existimos. Ya basta. Vive la palabra. Vive el ya basta. Sin palabra no existimos. Ya basta, vive la palabra, vive el ya basta. Nuestra lucha es por la libertad, para el pensamiento y el caminar. Y el mal gobierno pone cárceles y tumbas. Callando nos moríamos, sin palabra no existíamos. Luchamos para hablar contra el olvido, contra la muerte, por la memoria y por la vida. Sin palabra no existimos. Ya basta, vive la palabra, vive el ya basta. Sin palabra no existimos, ya basta, vive la palabra, vive el ya basta.
Toujours au Jardin des Ronces avec Marie et Julien, là on est en train de serpenter entre les ronces. Des fraisiers, encore des haricots, une partie de vos 2000 poireaux là.
D'ailleurs des fraises rouges en ce moment, ouais, c'est, ouais. C'est génial ça, c'est étonnamment, c'est assez tardif, mais pourquoi pas. Il y a une petite ruchette là-bas, alors il n'y a pas de dessin, c'est un apiculteur du coin là qu'on connaît, qui connaissait les gens justement du premier jardin, et puis qui a mis une petite ruchette pour capter des essaims ici. Et on aimerait bien l'année prochaine en mettre une vraie ruche là, cette fois-ci, ouais. Voilà, pas besoin de rappeler l'intérêt des abeilles, je pense.
Ah, vous avez fait de la courge, courgette et choses butternutiennes. Je suis surpris de ne pas en avoir vu plus que ça, en fait, courgettes, parce que normalement, là, vous avez la place, là.
On ne les voit pas beaucoup d'ici, parce que ça n'a pas été une grande réussite. Et là, sinon, ici, bon, là, on a les carottes pour l'hiver. Là. Nous avons nos rangs de navets. On a des rangs d'épinards, là, qui commencent à pousser, qu'il faudrait repiquer. Puis radis noirs, enfin, radis noirs, non, ils ne sont pas noirs. C'est des radis d'hiver, des gros radis, mais des roses et des violets. Dans d'autres endroits aussi, là-bas, on est passé à côté. Voilà, donc ça, c'est plutôt les cultures d'hiver, avec les poireaux, quelques choux. Il nous reste quelques patates, mais c'était pas génial cette année, donc ça va être juste. Mais voilà, on aura quand même un petit peu de quoi se nourrir cet hiver.
Et ouais. On arrive devant une petite parcelle de maïs, même pas génétiquement modifiée, je suis sûr. Ouais. Parce que vous n'êtes pas des gens modernes.
La dernière, c'était pas mal. Là, cette année, on l'a un peu raté. On l'a pas bien entretenu et voilà, on n'a pas pris les bonnes méthodes, mais c'est ce qu'on appelle une milpa. C'est un système donc, avec du maïs qui lui grimpe, qui sert du tuteur à un haricot grimpant. Donc là, sur certains, on a des haricots grimpants. Et puis au sol, on a des courges qui s'étalent, qui gardent l'humidité. Donc ça, c'est des systèmes amérindiens.
Encore dédicace au Chiapas, hein, c'est la fameuse histoire des trois sœurs.
Oui, les trois sœurs, notamment au Mexique, ouais, c'est vrai. Bon, c'est pas qu'au Chiapas, hein, c'est la plupart des paysans là-bas. Mais oui, c'est des choses qui se font un petit peu et que nous, là, on n'a pas très bien fait cette année. Mais on va quand même récolter un peu de maïs. Je pense qu'on va en manger ce week-end, là. Et on a des petites courges, là, on peut se balader.
En muchas montañas y muchas historias ha caminado la rebeldía contra la injusticia. Ha hablado ya en lengua náhuatl, paipai, quiligua, cúcapa, cochimí, cumiaí, chuma, seri, chontal, chinanteco, pame, chichimeca, otomí, ocuilteco, matlapinteca, mazahua. No morirá la flor de la palabra. Zapoteco, Solteco, Chatino, Papabuco, Mixteco, Cuicateco, Amuzgo, Triqui, Mazateco, Chocho, Iztateco, Huave, Tlapaneco, Totonaca, Tepehua, Popoluca. No morirá la flor de la palabra. Necesitamos pedir permiso para ser libres.
Ça me rassure quand même que vous me disiez que vous avez un peu raté vos courges et machin, parce que c'était un peu mon cas aussi. Je me dis, mais il faut vraiment être nul pour rater des courges. Non, en fait, il y a des années avec et des années sans, Marie. Je pensais que moi, c'était automatique, courges, courgettes, tout ça, qu'il suffit de planter, d'arroser, puis ça donne.
Ben non, l'agriculture, c'est ça. On ne sait jamais ce qu'on aura au bout du compte, hein, selon la saison, selon les intempéries ou pas.
En tout cas, tu viens de me donner une fraise, là. Merci beaucoup. Tu sais ce que c'est, non, comme variété ?
On nous a donné pas mal de stolons, là, d'un maraîcher, avec pas mal de variétés. Donc non, là, on n'a pas forcément noté tout ça, mais c'est des fraises qui sont bio. Ça, il n'y a pas de doute.
Ouais. C'est clairement... Donc voilà, toujours au milieu de notre système des trois sœurs. Hein. Vous vous souvenez, le maïs qui sert de tuteur aux haricots qui font de l'ombre aux courges et autres potimarrons.
Et avant, au départ, là, quand on est arrivé, on a défriché tout ça, là, du fond, là-bas, à côté des ronces, jusqu'à l'entrée, là, tout ça, on a défriché à la main avec plein de gens, et puis on avait mis en patates, oignons, comme prévu, quoi. Et puis après, on a été colonisé plus loin, quoi, vers le puits, et puis après derrière, et puis après la cabane et tout ça. Mais au début, c'était cette grande zone-là, ouais, qui était cultivée l'année dernière.
Ça devait être assez exaltant, non, de rentrer dans cette jungle. Bon, voilà, il y a un côté... oui, c'est ça. Non, on revient au western, hein.
Bah ouais, c'est ça, ouais, il y a un côté western. On est un peu les Indiens face aux
tuniques bleues.
Aux tuniques bleues, ouais, qui, bon, pour l'instant, nous embêtent pas trop. Bon, il y a des passages ici, quand même, de tuniques bleues, mais parce qu'il se passe pas mal de choses aussi ici, vu qu'il y a des bâtiments à l'abandon et tout. Mais pour l'instant, on n'est pas trop embêtés, mais ça risque de venir un jour, ouais, malheureusement.
Donc pour le moment, ça se passe bien finalement. Ils sont là, vous faites rien de mal.
On fait rien de mal, c'est sûr. Hein. Après, pour autant, ils laisseront pas un terrain comme ça avec des gens qui font rien de mal, mais qui l'occupent de manière libre, on va dire. Donc pour eux, on fait quelque chose de mal parce qu'on respecte pas un cadre légal, on respecte pas leur politique, ce qu'ils ont prévu pour ce terrain. Donc pour eux, c'est mal, mais pour nous, non, on est persuadé qu'on assume totalement ce qu'on fait là. Et puis, mais forcément, derrière ça, même si là c'est pas visible, il y a un conflit quand même qui existe puisqu'on est sur un terrain public, en conflit avec un projet, et donc forcément un jour ou l'autre ça va être plus visible parce qu'ils vont vouloir commencer à faire des choses, quoi.
Alors vous avez de la chance parce que vous avez de l'ortie aussi, ça c'est formidable. Personne ne l'a planté par contre, elle était déjà là. Non mais bon, c'est un vrai bol d'avoir de l'ortie.
On a fait du purin d'ortie pas mal, ouais. Puis bon, il y a des fougères un peu pour le paillage en surface, et c'est pratique aussi. Et puis sur place, les ronces hein, qu'on mange avec plaisir, quoi. Il y a pas mal de gens qui viennent les récolter aussi. C'est un peu les éléments naturels ici qu'on utilise, je dirais. Un peu d'épinettes là qui piquent, on a mis autour des choux pour les protéger l'an dernier, mais ça va pas freiner les lapins. On a des bâtiments qui ont été sécurisés par la ville depuis qu'elle est propriétaire maintenant. Bon, alors c'était des zones où il y a pas mal de gens qui venaient, il y a pas mal de graffeurs et tout ça. Donc il y a une partie des bâtiments qui ont été dit sécurisés, mais en gros qui sont plus accessibles, quoi. Et il reste un grand hangar là qui est devant nous, qui est un ancien bâtiment maraîcher sans doute, un grand hangar en béton mais qui est très impressionnant avec deux étages, grandes pièces vides toutes taguées et très chouettes, et on a fait pas mal de choses dedans. Sur les fêtes de jardin, ça s'initie souvent en baltrade. Donc balle traditionnelle avec un réseau de gens qu'on connaît qui venaient en soutien, et donc là c'est parti sur des balles assez extraordinaires avec plein de gens différents, et depuis il y en a eu plusieurs, ils ont même fait eux-mêmes indépendamment du jardin tout un week-end là il n'y a pas longtemps de baltrade. Donc c'est un lieu qui est approprié aussi par d'autres gens, et il se passe plein d'autres choses que ça, quoi.
Quand on dit baltrade, hein, je vous rappelle qu'ici on est à Nantes. On vous rappelle également que le cœur d'Anne de Bretagne n'est pas enterré à Strasbourg.
Ouais, il y a la musique bretonnante, pas que, hein, c'est musique trad de différentes régions de France. Mais oui, d'ailleurs, sur les petits panneaux où on écrit ce qu'il y a dans nos cultures, il y a régulièrement des traductions en breton. Ouais, il y a des personnes ici qui y tiennent. Ouais.
Et donc effectivement, là, nous voilà dans ce grand hangar. Oui, il y a de quoi faire la fête.
C'est impressionnant comme endroit. C'est du béton, mais à la fois, là, il a tellement été aussi réapproprié par des gens qui sont exprimés dessus, puis aussi parce qu'on y a vécu aussi depuis, sans doute, ça me fait penser à ça, mais je trouve que c'est un endroit qui est très beau, en fait.
Il y a plein de populations, d'ailleurs, c'est tout l'intérêt d'une friche et de ces zones tampons entre territoires. Et est-ce qu'il y a des moments où ça peut mal se passer, où il y a des usagers de cet espace avec lesquels vous... ça peut accrocher, ou simplement ça se limite à de l'indifférence, quoi.
Quand on a rencontré notamment des jeunes, entre guillemets, on va dire des ados qui passent par là, qui font leurs petits trucs, quoi, on a été amené à rencontrer certains, à discuter, ça se passait bien. Après, il y a d'autres profils, il y a des gens aussi qui peuvent squatter là, des gens qui sont en galère de logement, c'est arrivé, qui vivent dans le hangar, là. Enfin, ça se passe toujours bien dans les rencontres qu'on a eues. Après, il y a des gens qu'on n'a pas rencontrés, qui étaient peut-être de passage sur le terrain, où il y a eu des petites dégradations de la cabane, des choses comme ça, parce que ça donne envie, je pense, de rentrer dedans, de voir ce qu'il y a, parce qu'on l'a quand même sécurisé, parce que, voilà, on voudrait quand même au moins garder ça dans certains états. Ouais, ça arrive qu'il y ait des petites dégradations, mais rien de très méchant. C'était plutôt au début, là, sur le local qu'on avait aménagé, qui était peut-être, on s'est peut-être trop approprié un lieu. Donc, on a plutôt monté nous-mêmes un truc et laisser ça. Et ouais, on veut surtout pas donner cette impression de s'approprier un lieu et que les gens qui venaient ici, puissent plus, quoi. Et je trouve que ça marche plutôt bien. On peut pas se cantonner à juste le fait de jardiner. Quel sens on y met? Dans les jardins de la ville, par exemple, jardins familiaux, je pense qu'il n'y a aucun sens, c'est totalement apolitique. C'est des jardins juste pour que des gens puissent cultiver un petit bout pour eux, ce qui est déjà un premier pas, je dirais, vers l'autonomie alimentaire. Mais par contre, on va pas intégrer ça dans une politique plus globale, on va dire, de souveraineté alimentaire, de choses comme ça. Enfin, on le voit bien ici, d'un jardin, d'un territoire, là, il y a énormément de questions qui se posent, politique au sens large, on va dire. Un jardin où on est dans la réflexion plus globale, ouverte à plein de gens qui ont envie de s'y intéresser. Donc c'est un jardin qui est ouvert à toutes et tous. Après, on a quand même aussi certaines idées qui sont à construire collectivement, mais d'ouverture vis-à-vis de plein de gens qui sont différents, de gens qui ont d'autres nationalités, de gens qui ont d'autres manières de vivre. On est quand même sur quelque chose de très ouvert à ce niveau-là. On est très solidaire des gens qui vivent à côté, là, qui étaient des migrants, des réfugiés politiques. On en parle beaucoup en ce moment dans l'actualité, qui viennent principalement d'Afrique de l'Est et qui squattent l'ancien presbytère parce qu'ils étaient à la rue et qui sont même maintenant, on va dire, accueillis par la paroisse, soutenus par des associations, par des gens du quartier et qui viennent aussi parfois travailler un petit peu ici. Oui, c'est un jardin qui est ouvert, on est prêt à discuter avec toutes sortes de personnes et d'idées. On lutte un peu contre ces discours fermés qu'on entend de plus en plus. La peur de la personne qui n'est pas la même couleur de peau, du même mode de vie. Ici, sur la zone, il y a des gens qui galèrent aussi. Il y a un camp de Roms. Effectivement, il faudrait qu'ils puissent avoir une viabilisation de leur terrain. C'est une zone aussi où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens du voyage. Depuis le XVIIe siècle, il y aurait des gens du voyage sur la zone. Alors, est-ce qu'ils se définissent encore comme gens du voyage? Je ne sais pas, parce qu'ils sont installés. Mais ça fait partie aussi de cet ancrage-là, de cette histoire-là. Et plutôt dans une logique aussi d'ouverture et d'aller se rencontrer et voir un peu aussi ce qu'on pourrait faire ensemble et tout ça. Et je pense que c'est bien aussi d'avoir ça à l'idée aussi en venant ici, parce que c'est aussi ce qui peut permettre à quelqu'un de se dire bah là je sais que je vais trouver un endroit où les gens sont ouverts et que en plus du jardin il y a des questions plus globales quoi de société. On est là ouais à vivre un peu une réalité commune d'un terrain qui serait quand même amené à être transformé. C'est un destin qui nous rejoint finalement. Donc on a à discuter ensemble, quoi.
En attendant, et peut-être que ces immeubles ne verront jamais le jour, et touchés par la grâce, les élus de Nantes se diront « Mais oui, cet espace est formidable, il faut absolument le préserver et en faire un magnifique jardin. »
Il y aura certainement des zones jardins, voire des zones maraîchères sur la zone, c'est possible. La mairie est dans des logiques aussi un peu avant-gardistes, de se dire une grande métropole qui est en avance et qui montre que l'agriculture urbaine est possible.
À Nantes, vous avez quand même des années-lumière d'avance par rapport à plein d'autres villes.
Hein. C'est une ville, c'est une belle vitrine de la modernité des métropoles. Là, ici, on est en plein dans les conséquences de la métropolisation. C'est un grand mot, mais il y a plein de choses derrière. Hein. C'est un mode de vie un peu standardisé qui s'impose dans les villes, qui va amener ses effets un peu, moi, je pense, néfastes dans ce quartier-là, qui en était un peu en dehors. Quoi. Donc voilà, je pense qu'il y aura peut-être des zones agricoles, mais plus pour un aspect un peu symbolique, on va dire, de dire qu'on peut faire ça. Mais n'empêche que la plupart des terres, elles seront détruites et que ces productions-là agricoles... À quoi elles serviront quoi. Soit on fait de l'agriculture pour se nourrir, et du coup, si là, il y a 5000 nouvelles personnes, et ben là, ça ne servira même pas à nourrir les nouvelles personnes qui vont arriver. Donc finalement, s'ils veulent bétonner, qu'ils bétonnent tout, ça ne sert à rien, en fait. Enfin, le mieux que rien, moi, j'y crois pas trop, parce que c'est plutôt des petites choses pour mieux faire passer ce qu'il y a à côté. Et donc non, je pense qu'il faut être capable de prendre à la base un projet, et de croire en des idées, et de dire que là, soit on fait une zone d'urbanisation, parce qu'il y aurait besoin de logement, soit on fait une zone agricole, parce qu'il y a besoin de se nourrir. Justement, on réfléchit à est-ce qu'il y a besoin de logement à Nantes ? Clairement non. Alors il y a quelques années, les chiffres officiels, c'était 8 ou 9 000 logements vides à Nantes. Alors est-ce que d'en construire 2 000 nouveaux ici, c'est nécessaire ? Et pourquoi aussi on fait des nouveaux logements ? C'est comme si c'était naturel, il y a un progrès naturel qui fait qu'il faut du logement s'agrandir. Puis que, soi-disant, juste la démographie, l'augmentation, justifierait cette augmentation-là. C'est faux, parce qu'on fait tout pour attirer vers les métropoles les populations, parce qu'on attire le capital, l'emploi, même s'il y en a peu, mais bon, enfin, tout est concentré ici, hein, dans tous les domaines. Les campagnes se désertifient, ou alors deviennent un peu des zones périurbaines, cités dortoirs autour. Donc on concentre tout ici, donc on attire les populations ici, un maximum, on entasse. Alors que déjà, ça crée une vie socialement qui n'est pas très intéressante, on ne peut pas cultiver. Et sauf qu'en fait, donc en disant qu'il n'y a pas besoin de nouveaux logements ici, et même de manière générale à Nantes, c'est de revoir globalement les politiques de la ville et de se dire là, on arrête de s'étendre et de tout concentrer ici, là, ça va étouffer. Et on essaie aussi de redonner vie dans des zones rurales aux alentours où il faut redynamiser un peu ces espaces-là au niveau de l'agriculture, de l'artisanat, il y a énormément de choses à faire. Et en fait, d'un côté, on a des zones qui se désertifient, où il n'y a plus trop de vie, ou alors des cités dortoirs où c'est juste pour dormir, et c'est assez horrible quand même ce qui s'y passe. Et de l'autre côté, une zone où tout le monde s'entasse, on se reconnaît plus parce qu'il n'y a plus grand-chose qui nous relie en fait dans nos vies, plus trop de conscience collective, et on se retrouve à avoir des zones comme ça où il n'y a pas de vie. Donc là, il faut repenser ça et lutter contre cette urbanisation à outrance.
Dit comme ça, après on s'étonne un peu moins que les mômes, ils pètent tout, parce qu'ils n'ont même plus conscience que l'arrêt de bus, c'est de l'heure. Quoi.
Ouais, non, mais c'est sûr, ouais, il faut se réapproprier nos espaces. Nous, c'est ce qu'on dit ici, hein. Là, il faut s'organiser, on a fait des réunions ici, un peu de quartier, qu'est-ce qu'on voudrait pour la zone, et repartir du début et se réapproprier cet espace-là et ceux qu'il y a autour, s'il y a des gens qui ont envie, et puis d'aller et garder des espaces de liberté, sauvage. Enfin, là, on voit les gamins qui traînent un peu ici, et je pense que c'est important, quoi. Ça rappelle la jeunesse, et qu'on avait tous besoin de ça, quoi. De sortir des cadres très contraignants, soit de l'école ou des parents, ou de la société en général, quoi. Et que ça, il n'y en a plus beaucoup, donc voilà, il faut en maintenir.
Ce sont des belles idées avant-gardistes, hein, de jeunes qui veulent vraiment construire le monde des générations futures. Et que ce ne sont pas seulement des belles paroles. C'est beaucoup d'agir, d'action sur le paysage. Ce jardin, ça représente énormément d'heures de travail, de vrai travail.
Et voilà les amis, c'est la fin de cette balade au jardin de Ronces, dans le vieux Doulon, en périphérie de Nantes. Si le projet vous intéresse, les Ronces, tout attaché, @rizup.net. Salut !